Bonsoir Internet. Bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur Internet et Clara Beniamine au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui, Mathieu Gaillet, salut.
Salut Clara.
Salut. Alors Mathieu eût été juriste dans une autre vie, aujourd'hui il est consultant Nouveaux Médias. Et avec nous également, Loïc Fouquet.
Hello.
Loïc a été avocat dans un cabinet prestigieux à Paris et maintenant il est musicien professionnel. Et ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont tellement brillants que ça fait mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour, parce qu'aujourd'hui on fait mon sujet préféré, on commence à aborder mon sujet préféré, à savoir comment est-ce qu'on décide de l'âge de classification des films au cinéma.
Les fameux visas.
Les fameux visas. La toute première question qu'on peut se poser là-dedans, c'est celle de la liberté d'expression. En fait, on peut se dire, attends, est-ce que contrôler les films avant qu'ils sortent, est-ce que leur apposer un visa administratif, un coup de tampon de l'administration pour les autoriser à être diffusés en salle, est-ce que c'est pas une forme de censure ? La loi française, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, définit la liberté d'expression comme suit. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc on est sur un texte assez large, qui comme d'habitude, si vous nous écoutez un petit peu régulièrement, n'est pas extrêmement précis pour permettre une marge d'appréciation et pour permettre de s'adapter aux situations qu'il rencontre. Gardez ça à l'esprit, ça va être très important pour tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Et ce qu'on va commencer par se dire, c'est que le fait que les pouvoirs publics doivent regarder les films avant qu'ils sortent au cinéma, aujourd'hui on parle de sortie cinéma, on rentre pas dans les détails des diffusions VOD, etc. Le fait que les pouvoirs publics soient premiers à les voir pour donner une autorisation de sortie et pour les assortir de ce qu'on appelle un visa, on va y revenir, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est le rôle notamment des pouvoirs publics de protéger ceux qu'on dit être les plus vulnérables, les plus jeunes, les plus sensibles. Donc ce n'est pas une mesure de censure à notre sens, et on est assez persuadé, assez tranquille avec ça, c'est pas une mesure de censure que de dire qu'il doit y avoir indiqué sur les films que vous allez voir au cinéma si ceux-ci sont appropriés pour tout public, pour des gens de plus de 12 ans, pour des gens de plus de 16 ans et pour des gens de plus de 18 ans. C'est assez important de commencer par ça. Et donc ensuite, comme on a commencé à l'esquisser, pour avoir le droit de sortir au cinéma, de sortir dans une salle de cinéma, le film doit avoir un visa. Qu'est-ce que c'est un visa ? Eh bien, le visa, c'est l'autorisation administrative d'exploiter le film, français ou étranger, sur le territoire de la République. Et on revient juste après sur qui est-ce qui donne ce visa. Pour le petit point histoire rigolo et mignon, dans les premiers textes, on prévoyait que le cinématographe, dont le brevet a été déposé à la toute fin du 19e siècle, était un spectacle de curiosité, donc qu'il échappait au régime qu'on appliquait à la presse et aux livres de contrôle préalable de la publication. À ce moment-là, on avait juste besoin d'une autorisation du maire. Et en 1909, il y a eu un premier cas de censure et d'interdiction de diffusion qui était pour un reportage d'information au sujet d'une quadruple exécution capitale.
On aura mis le temps quand même.
Ouais.
Entre 1895, le brevet, et 1909,
ça veut dire que pendant
censure, c'est
14 ans, un âge béni de
l'âge
la liberté,
d'or.
L'âge d'or.
On ne devait pas y avoir beaucoup de films qui sortaient
la
par an non plus à cette
enchantée.
Époque.
On filmait surtout les sorties des gares et des reportages
documentaires.
C'est
ce documentaires. Que j'allais dire.
Ouais, d'accord.
L'entrée du train en gare de la Ciotat et la sortie de l'usine. Et donc du coup, oui, voilà, première censure en 1909 avec cette quadruple exécution capitale. Et en 1946 a été créée la commission de classification, mais on va largement y revenir. Mais avant ça, Mathieu, est-ce que tu commences à nous raconter un petit peu des
petites anecdotes,
des petites aventures,
oui,
et des anecdotes?
Oui.
Pas si petites, c'est juste pour vous expliquer qu'effectivement, quand on sort un film en France, il nous faut un visa, ça permet une exploitation dans les salles, etc. Ça touche tout le monde, y compris les blockbusters américains, mais aussi les films d'auteur. Et une affaire assez connue, c'est en 1962, Jacques Rivette, qui à l'époque voulait donc réaliser La Religieuse, qui est un récit adapté de Diderot, qui est un récit un peu sulfureux, qui se passe dans un couvent, etc., avait été,
j'ai vu ce film,
entre guillemets, censuré.
Ouais.
Alors, c'était pas une vraie censure, mais en fait, ce qui était fou, et il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, parce que tout à l'heure, on abordera des films beaucoup plus récents.
On est avant mai 68, hein.
Voilà.
Et 1962.
Et la religieuse, le CNC, pour le coup, qui, dès les étapes, les aides au développement, à l'écriture, lui avait dit, attention, Jacques, ton récit risque de ne pas avoir de visa, parce qu'il est trop sulfureux, trop polémique, etc. Et à l'époque, il y avait déjà des associations religieuses et des hommes politiques qui avaient un peu levé la contestation. Le film a connu beaucoup, beaucoup de problèmes de production. Mais tout ça, pour résumer, que, effectivement, il avait été plus ou moins interdit de visa à la fin de sa production. Et c'est par le passage au Festival de Cannes et tout le côté un peu promotion que finalement, le ministre de la Culture de l'époque avait fini par lui délivrer un visa et que le film a quand même fait 3 millions d'entrées. Mais c'était déjà à l'époque un critère très important. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. C'est que, on en parlera tout à l'heure, un moins de 16 ans, un moins de 18 ans, ça a un impact sur la sortie, mais je ne spoil pas la suite.
No spoiler. Et alors, donc, tu nous as rapidement abordé le CNC. Et le CNC est donc l'organisme dont une des sous-sections attribue ces fameux visas. Mais tout d'abord, Loïc, qu'est-ce que c'est donc que le CNC ?
Alors, le CNC, c'est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui a été créé en 1946. Au début, c'était une agence indépendante. Et puis, en 1959, André Malraux, alors ministre de la Culture, le rattache au ministère de la Culture.
Donc, et alors, qu'est-ce qu'il fait, le CNC ?
Alors, il a plusieurs fonctions, plusieurs missions. 6 précisément, qui sont listées par l'article L111-2 du Code du cinéma et de l'image animée. Donc, c'est vraiment une pierre angulaire du régime du droit du cinéma. C'est tout d'abord la réglementation du cinéma. Mmh. On a également le soutien à l'économie du cinéma, de l'audiovisuel, du multimédia. Donc, le CNC va pouvoir attribuer des subventions. Il perçoit une partie de l'argent qui est collecté via des taxes.
On se fera sûrement un petit épisode, enfin même un très gros épisode sur l'exception culturelle française et où on développera tout ça.
Voilà, donc c'est un système qui est assez alambiqué, mais qui permet de soutenir financièrement l'économie du cinéma, de l'audiovisuel. Le CNC est également chargé de la promotion du cinéma et de l'audiovisuel et de leur diffusion auprès de tous les publics, de la protection, de la diffusion du patrimoine cinématographique, donc avec des partenariats notamment avec l'INA. Le CNC est aussi chargé des actions européennes et internationales, donc ça va être de la représentation auprès des instances, ce qu'on peut appeler du lobbying, hein, grossièrement parlant.
Et last but not least,
c'est trop tôt pour faire de l'anglais.
Ah là là.
Par contre, voilà, je ne sais pas si on aura du latin. En tout cas, l'anglais ce matin, ça va pas passer, je pense. Et enfin, dernière mission, notre fameuse commission de classification qui va se charger des visas.
Des visas. Et qui est-ce qui se charge de la commission de classification ? C'est Mathieu. Raconte-nous un peu. C'est quoi et il y a qui dedans ?
C'est pour moi. Mais c'est pas comme si à l'époque, quand je bossais en production, j'allais déposer des petits dossiers de demande de visa déjà.
Bonjour.
Pour être très clair, la commission de classification, du coup, c'est comme dans les instances publiques, il y a souvent beaucoup de gens d'origines différentes qui rejoignent ces organismes-là. En l'occurrence, là, l'objectif, c'est quand même de délivrer des visas pour diffuser des films quels qu'ils soient, comédie, drame, etc. Donc, le CNC fait à peu près bien les choses. Pour résumer, tout film français ou étranger, court ou long métrage, documentaire, etc., quel que soit le type, même les bandes annonces doivent, dès qu'elles sont en projection publique, avoir un visa.
Oui, alors très important, c'est absolument tout, c'est-à-dire les bandes annonces, les courts métrages,
les
affiches.
C'est une question.
Non.
Non, pas les affiches. Mais par contre, vraiment, ça va de Blanche-Neige jusqu'à Cannibal Holocaust.
Voilà. C'est-à-dire que c'est ça.
Même.
Et les cours, et les voilà, toute forme de projection publique est assujettie à un visa.
Voilà, c'est ça.
Je vais dire en préambule tout de suite que on s'est posé la question pour les films Netflix. On passe le côté chronologie des médias. Réécoutez le premier épisode de ce podcast.
Le mieux, le meilleur.
Mais on peut imaginer qu'un film qui soit produit pour d'autres plateformes que le cinéma, de temps en temps, peut passer sur grand écran. Et il y a quand même des exceptions où le film peut être projeté sans visa. C'est notamment tout ce qui est projection privée, gratuite, etc. Ça explique pourquoi Roma, notamment, était présenté au Festival Lumière. Netflix n'est pas évidemment passé par la case du CNC du visa, auquel cas il se serait confronté à l'industrie entière qui aurait peut-être pousser un petit
cri. C'est ça. Et il y a aussi des questions de visa temporaire, notamment
et
pour...
Et de visa temporaire.
Ça a été le cas pour Rogja. Enfin bon, bref. Autre épisode.
Il y a deux, trois petites exceptions comme ça. Donc, faut bien se poser la question. À partir du moment où on va en cinéma, on a un visa. Et la commission de classification, pardon, par un décret du 23 février 90, elle est constituée en fait de commissions qui vont étudier chaque film. Donc, c'est des commissions qui se réunissent au CNC, qui regardent deux, trois films en même temps. On peut se dire que c'est assez cool. Et qui prennent des décisions, enfin qui proposent des visas, et ensuite elles passent potentiellement en assemblée plénière. Et c'est l'assemblée plénière qui va, on en reviendra tout à l'heure, mais qui peut finaliser tout ça.
Ah oui, je vais passer un petit message, excuse-moi, je te coupe. Je rêve de faire partie de la commission de classification. Voilà. Appelez-moi, je vous en supplie.
Nous aussi, on fait du lobbying.
C'est tout le but de cet épisode, c'est de faire du pied au CNC. Faites-moi venir à la commission de classification. Excuse-moi. Voilà. Mais donc, du coup, il y a
et on s'assure que toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées, puisque du coup, l'idée, c'est quand même, en termes de diversité, que un peu tout le monde donne son opinion.
Tout à fait.
Ça donne des visas qui sont censés être assez objectifs selon n'importe quel film. Donc, on a des gens de l'administration, des ministères, de la justice, de l'éducation nationale, des gens qui viennent des familles,
des représentants des associations de famille.
Et de jeunesse aussi.
Et de jeunesse.
On a des jeunes qui viennent donner leurs avis. On a évidemment des professionnels du cinéma aussi. C'est quand même important que ce soit les premiers à donner leurs avis. On a des experts qui viennent du monde médical, des sciences humaines,
des
spécialistes de l'enfance et de l'adolescence, des experts du ministère de la Justice, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, etc. Je vous passe un peu toutes les catégories, c'est disponible sur le site du CNC. C'est très bien documenté, vous avez aussi toutes les anciennes décisions de la commission de classification. En tout cas, tout ça pour vous dire que le panel de gens qui décident des visas représente à peu près tout le monde.
Et puis ils sont nombreux.
Et ça, c'est pas mal.
Ouais, ils sont
très nombreux. Il y a beaucoup de sous-commissions, etc. Donc soyez rassurés. Et c'est pour ça aussi que des fois, il y a des appels ou des discussions sur des décisions rendues. C'est qu'on peut revoir tout ça, le cas échéant.
Donc s'il y a beaucoup de monde, t'as peut-être des chances, Clara.
Mais arrête, c'est mon rêve. Oui, donc il y a beaucoup de monde. Il y a 27 titulaires, 59 suppléants. Et dans les choses un petit peu intéressantes aussi, il y a le fait que le président est nommé par arrêté du ministre de la Culture. On a abordé rapidement donc le visionnage en commission, sous commission, mais comment ça marche exactement, Loïc ?
Alors, tout d'abord, tous les films sont en premier lieu visionnés en sous commission. Donc le commissaire établit, donc il regarde le film, ils établissent un rapport avec une proposition de visa et l'adressent au président.
Oui, c'est ça. Donc les membres de la commission font une proposition de visa qui est adressée au président de la commission.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est un espèce de premier filtre. C'est-à-dire que si on a l'unanimité de cette sous-commission qui préconise une autorisation tout public, par exemple, le film n'est pas renvoyé à la seconde assemblée, donc l'assemblée plénière. Et à l'inverse, dès qu'on a un des commissaires qui propose une mesure restrictive, donc l'œuvre, elle va passer en assemblée plénière.
Une mesure restrictive, on va y revenir, voilà. Mais c'est tout ce qui n'est pas tout public.
Voilà. Donc, cette fameuse assemblée plénière, elle va se réunir deux fois par semaine pour procéder au visionnage des films. Elle regarde en moyenne deux par séance. Et à l'issue des projections, elle va débattre. Les membres vont soulever les questions qui s'imposent, notamment si on a des contenus violents, si on a des contenus relatifs à sexualité, à la délinquance, des drogues éventuellement. Et puis, les commissaires procèdent à un premier vote à main levée. Si celui-ci est unanime, le visa est adopté. Il est proposé au ministre. Et sinon, on a un nouveau vote à bulletin secret et la décision est prise à la majorité simple.
Voilà, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas la commission de classification qui prend la décision toute seule. En fait, la commission de classification va faire une proposition de classification au ministre de la Culture, enfin au ministre chargé de la Culture, et qui va être donc l'institution qui va rendre la décision finale de quelle va être la classification. On les détaille tous juste après. Et la dernière chose un peu importante à vous préciser sur le fonctionnement de la commission, c'est que c'est donc l'autorisation administrative préalable à la sortie en salle et que le visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance, de la jeunesse et du respect de la dignité humaine. À noter quand même que le dernier refus de visa total date de 1979. Donc voilà, que même les films les plus violents, remuants et secouants, aujourd'hui, peuvent maximum écoper, enfin, généralement écopent de visa de restriction au moins de 18 ans. C'est très 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 rare qu'un film soit purement et simplement interdit.
N'en déplaise à promouvoir.
On y revient. Et donc Mathieu, est-ce que tu peux nous détailler quelles sont les différentes mesures de classification qui peuvent être retenues ?
Rentrons dans le cœur du sujet.
Effectivement, oui, c'est vrai, ça fait 15 minutes qu'on parle.
Je pense que les gens le savent à peu près. Quand vous allez voir un film au cinéma, il peut être interdit au moins de 12 ans, au moins de 16 ans ou au moins de 18 ans. On vous reviendra sur les conséquences économiques notamment de ce genre de classement. Évidemment, un film peut être tout public avant ça. Où un visa peut comporter l'interdiction de représentation aux mineurs de moins de 18 ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue, et je vous lis un peu le truc, à l'article L311-2 du Code du cinéma et de l'image animée.
Alors il y a 2-3 visas entre le tout public et le moins de 18.
Voilà, moins de 12, moins de 16, moins de 18.
Mais vous connaissez tout ça, hein, vous allez au cinéma.
Voilà, c'est pour vous dire, pour vous donner un peu toute l'idée, on précise tout de suite, ce sera peut-être une autre émission, mais que pour la télévision, c'est un peu différent, c'est le CSA qui donne ses avis. C'est à peu près les mêmes chiffres en termes d'interdiction, mais un film interdit au moins de 12 ans au cinéma n'est pas forcément à la télévision, parce qu'il y a des histoires d'horaire aussi de diffusion.
Il y a des histoires d'horaire de diffusion, oui.
Et pour vous dire, j'anticipe un peu sur un truc qu'on pensait plus tard, mais notamment on peut avoir des avertissements par-dessus ces visas, et tout ça doit être affiché proprement au cinéma. Donc si vous avez un doute sur un film, n'hésitez pas à demander, normalement c'est affiché aux caisses, c'est affiché sur les affiches, c'est affiché à l'entrée, etc. etc. Donc si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un souci. Je pense notamment à l'exemple de Sausage Party, les gens pensaient aller voir un gentil dessin animé avec leurs enfants. Attention, tous les films d'animation ne sont pas faits que pour les enfants.
Mais par contre, ça passe pas au début du film. Si un message d'avertissement, il passera pas au début du film. C'est juste,
c'est juste avant l'entrée en salle.
Aux alentours.
Il me semble pas qu'il y ait d'affichage.
Il y a pas un carton au début des. Oh, je sais plus.
Il me semble que
à la télévision, si, mais.
Ok.
Au cinéma, non. Je pense qu'il y a juste la mention du visa
sur l'affiche. Oui. Quand au début des films et à la fin des films, il y a marqué visa d'exploitation numéro nanana.
Message d'avertissement.
Non, mais effectivement, voilà, ça doit être affiché très clairement sur l'affiche. Ça doit être inscrit très clairement sur l'affiche. En général, c'est en bas. C'est un espèce de carré blanc, enfin d'inscription, de surimpression en blanc, et où il y a écrit film interdit au moins de nanana, avec un éventuel avertissement qui sert un peu d'intermédiaire entre les divers paliers. Donc par exemple, vous allez avoir l'interdiction au moins de 12 ans avec avertissement, c'est censé être un petit peu plus corsé que le film moins de 12 ans.
Et ça vous précise un peu souvent la raison, avertissement pour telle chose.
Pour violence, donc, pour caractère sexuel.
Soyez un peu vigilants, c'est le moment de vous parler d'une association qui est très vigilante justement.
Yes.
L'association Promouvoir.
Peut-être qu'il devrait s'appeler Vigilance, justement.
C'est un peu dangereux encore. L'association Promouvoir, on en entend beaucoup parler parce qu'il n'y a pas que dans le cinéma qu'elle est active. Notamment, Loïc parlait de posters, mais dans les affiches de publicité, Promouvoir est aussi très active dans tout ça. Et Promouvoir décide souvent que les décisions rendues par la commission de classification ne sont pas forcément justes au regard de la violence ou du caractère sexuel des films cités. Donc, cette bande de joyeux lurons, qui vient plutôt des milieux catholiques traditionnels, c'est assez reconnu, consacre depuis 1996 en fait une bonne partie de son temps à porter des visas d'exploitation devant le tribunal administratif. Loïc nous en parlera tout à l'heure. Un fait d'armes assez particulier, il y a deux ans, en 2017, ils avaient quand même fait revoir le visa d'exploitation de 50 nuances plus claires, film autant très dangereux pour la jeunesse, qui était interdit au moins de 12 ans. Avec à écoper au final d'un visa d'interdiction au moins de 12 ans, sauf qu'évidemment avec les procédures judiciaires, le visa avait été modifié 5 semaines après la sortie en salle du film, et c'est souvent le cas, c'est que les affaires, tout ce qui est contesté par Promouvoir, les affaires se concluent plusieurs années après la sortie du film, ce qui peut gêner d'éventuelles rediffusions ou projections, etc.
L'exploitation cinéma de toute façon est terminée.
Je vous donne quelques exemples assez connus de films attaqués par Promouvoir.
Plein de films français, hein, d'ailleurs. Je suis assez contente de voir que dans la liste des films fripons.
Nous sommes un peu osés en France.
Il y a plein de films français.
Évidemment, le film Baise-moi, on va y revenir tout à l'heure, de Virginie Despentes, puisque c'est un film assez fondamental dans la matière qu'on aborde aujourd'hui. Également Ken Park, Antichrist, Love, Bengeng plus récemment, et puis surtout La vie d'Adèle, qui avait connu un feuilleton judiciaire assez olé-olé également, puisque de moins de 12 ans, il était repassé en moins de 16, et puis il y avait eu des appels, etc. Et au final, ça n'avait pas changé grand-chose. Le visa de moins de 12 ans avait été rétabli. Également, sur le côté violence au cinéma, Saw 3D avait fait scandale, puisque le film avait vu son visa annulé 5 ans après sa sortie. Ça montre aussi que des fois, le juge peut avoir un regard différent sur ce film qui passe en salle. Et c'est vrai que Saw 3D était particulièrement un petit peu violent.
Ah ouais, alors Mathieu et moi, on est particulièrement fans de films de genre. Et vraiment, excusez-moi pour la formule, ouais, Saw 3D, c'est vraiment la teuf à la viande, quoi.
Voilà.
Classe. Tu voulais dire quelque chose ?
Non, du tout.
D'accord, ok. Voilà. C'était Saw 3D.
Je l'ai pas vu.
On se fera une petite projection à la maison avec rien à manger.
Faites attention.
Oui, important à jeun.
Donc faites attention à l'affichage, en tout cas en salle. Tout ça pour vous dire que ça doit être clairement affiché. Et intéressez-vous à ça quand vous allez réserver une séance pour un film, si vous y allez éventuellement avec du jeune public.
Oui, tout à fait. Parce que tout ça n'est pas fait pour vous embêter. Et encore une fois, nous, on est plutôt des fans de films d'horreur. Mais tout ça est vraiment fait pour que le spectateur, pour que le public sache ce qu'il va voir. On peut avoir des films qui font un peu peur et qui vont juste être un petit peu graphiques avec une petite gerbe de sang. Et on peut avoir très envie de se faire un petit frisson avec ça. Mais pas forcément de voir quelque chose d'extrêmement remuant, d'extrêmement graphique avec des choses qui font très très peur et qui sont très très violentes ou très très sexuelles ou plein de choses comme ça. Donc tout ça n'est pas fait pour vous embêter et on n'est pas là pour vous faire la morale, mais l'idée c'est quand même que ces visas, en général, ils sont pas attribués n'importe comment. On a bien vu que les membres de la commission de classification, ils sont pas là pour être une autorité de censure. C'est vraiment une idée de protéger et d'avertir des gens qui auraient pas envie de s'exposer à ça, ou des gens qui voudraient emmener leurs enfants voir un chouette film d'animation qui s'appelle Sausage Party et qui ne savent pas que ça va être un petit peu osé.
Et d'ailleurs, donc, ils ont une appréciation qui est généralement un peu plus libéral, on va dire, que les juges, qui ont plus tendance à se laisser convaincre par les argumentaires.
Ouais, on a vu que la commission de classification était vraiment constituée de gens de la société civile en partie, un peu de l'administration et un peu des professionnels. Donc on peut penser qu'au final, c'est des décisions, encore une fois, assez objectives.
Oui, c'est ça. C'est pas une bande d'odieux censeurs qui sont là pour faire interdire les films. Vraiment, c'est pas l'idée. Donc quand vous avez un moins de 16 sur un film, en général, c'est assez justifié.
Et ça dépend aussi du contexte de l'époque. Je vous parlais de la religieuse tout à l'heure. C'est pareil, Godard avait vu un de ses films carrément censuré, mais il traitait de la guerre d'Algérie au début des années 60. Il y avait eu, ça serait très contestable évidemment, mais on pourrait essayer d'imaginer quel type de film aujourd'hui serait interdit. Évidemment, aujourd'hui, on essaie un peu plus de laisser un peu le champ libre de l'exploitation, même pour des œuvres un peu dures pour le public.
C'est ça. Et donc, juste pour finir un petit peu là-dessus, et après on passe à comment se détermine la catégorie d'âge, le dernier décret qui a été rendu à ce sujet-là date de, il n'y a pas très longtemps, il date de février 2017. Et en fait, il dit que désormais, les conditions dans lesquelles peuvent s'appliquer les interdictions, donc là c'est aux mineurs, l'idée c'est prendre en compte de nouveaux éléments d'appréciation, en l'occurrence le parti pris esthétique, le procédé narratif du film, qui permet de vraiment juger le film. Donc il n'y a pas des critères objectifs comme un peu peut y avoir aux États-Unis. L'idée, c'est pas de dire s'il y a un téton, c'est moins de 16, s'il y a deux tétons, c'est moins de 18, s'il y a une gerbe de sang, c'est moins de 12, s'il y a trois fois fuck, on passe en rated R ou des choses comme ça. Tout ça, toute l'appréciation est basée sur des critères un peu souples qui permet justement de l'adapter à son époque, à son public et à la réalité de ce qu'on voit, n'est-ce pas Loïc ?
Absolument. Bah en fait, le cadre général dans lequel la classification va s'effectuer ne renvoie pas pour concernant le contrôle à une méthodologie, à une grille d'évaluation fixe qui permettrait d'évaluer directement la tranche d'âge pour laquelle une œuvre est appropriée. Donc on n'a pas une espèce de petite grille avec des croix à cocher. Est-ce qu'on a tel élément choquant ? Est-ce qu'on voit un téton ? Est-ce qu'on voit de la drogue ? Est-ce qu'on voit une cigarette ? Non, on n'a pas tout ça. On n'a pas de critères précis, à l'exception de certaines interdictions, pour tout ce qui est
sexualité non simulée,
tout ce qui est interdit au moins de 18 ans. Donc finalement, on laisse part à la subjectivité des membres.
Voilà, et le but, c'est de faire une balance entre la nécessaire protection du public et la liberté de création et la liberté des cinéastes. Donc encore une fois, le but de ces visas, c'est pas absolument d'être une odieuse censure, c'est vraiment de vous tenir au courant, même pas de vous prévenir, voilà, de vous tenir au courant de ce que vous allez voir, et si vous pouvez emmener votre petit cousin Barnabé pour voir ce chouette film d'animation qui a l'air très rigolo, et qui est effectivement très rigolo, mais qui n'est pas pour Barnabé, qui a moins de 6 ans pour moi. Je sais pas pourquoi Barnabé, tout le monde me regarde consterné, parce que Barnabé, ça a l'air d'être un tout petit garçon. Voilà.
C'est mignon, Barnabé.
C'est très mignon, Barnabé.
C'est très 2010.
Pourquoi tu fais le geste qu'on
rame ?
Ouais, c'est ça. Ok, on enchaîne. Ça va, on va hyper vite aujourd'hui. On a le droit de parler de Barnabé. Et donc, est-ce qu'on a fini sur comment est-ce qu'on détermine les catégories d'âge ?
Bah, écoute, on peut peut-être conclure en disant qu'effectivement, comme le disait Mathieu, c'est une question de contexte et donc on replace les scènes, les événements dans la logique de la narration, du parti pris artistique et puis bah, du contexte sociétal, des questions sensibles à un moment donné. Et tout ça va permettre à la commission de proposer un visa et éventuellement de mettre en place des mesures restrictives.
Et alors ?
Des visas restrictifs.
Des visas restrictifs. Et l'idée, c'est de dire à ce stade que ces visas restrictifs ont des conséquences, et notamment quand il s'agit de visas très restrictifs. Soyons réalistes. Là, on parle pas exclusivement de droit, parce que bon, effectivement, si votre film, il est classé X, on va y revenir après sur la distinction entre, on l'a déjà un peu abordé, mais la distinction entre le moins de 18 et le classé X. Si votre film est classé X, bon, ok, il a une TVA différente, il peut pas être diffusé dans les cinémas normaux, il doit être diffusé dans les salles spécialisées, bon. Mais l'idée, c'est qu'un film moins de 16, voire moins de 18, et donc moins 18 sans la classification X, c'est un peu différent, j'y reviens juste après. Ce film-là, il va quand même avoir du mal à trouver son public, il va avoir du mal à se frayer jusqu'à vos petits yeux.
Et il va faire peur aux exploitants.
Et il va faire peur aux exploitants, c'est-à-dire que, alors les exploitants, donc c'est les salles de cinéma, pour faire très simple. Il y a effectivement plusieurs groupes d'exploitants. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais bon. Donc, plusieurs groupes d'exploitants. Les exploitants, c'est par exemple Pathé Gaumont, ou IGC, ou MK2, ou CGR. Et il y a plusieurs groupes qui décident qu'ils ne veulent pas projeter de films moins de 16 ou moins de 18. Alors, moins de 18, c'est encore pire. Ou alors qu'ils vont les projeter que dans certaines salles parce que ça pourrait causer des troubles. On se rappelle de la large couverture médiatique des quelques incidents sur les films.
Sur des films qui sont pas forcément, qui ont pas forcément des visas très élevés.
Il y avait plutôt des moins
déjà,
de 12.
Un film de genre, par exemple, peut exciter certains publics qui va renverser la salle. Et au-delà de ça, un film moins de 18 ans ou classé CX, évidemment, une salle de cinéma qui aujourd'hui est plutôt tournée vers le grand public, à part certaines salles indépendantes, à certains horaires très tardifs, ne voit pas ni l'intérêt, ni l'importance de projeter ce type de film. Donc, un film classé moins de 18, classé X, d'emblée, pour résumer un peu ton futur propos, se voit quasiment interdire de circulation.
Le classé X, en plus, il n'a pas le droit de sortir dans les salles traditionnelles. Mais donc, voilà, l'idée, c'est que le visa moins de 16 et moins de 18, contre lesquels se battent avec acharnement les producteurs et les distributeurs, on a eu plein d'exemples en France au début des années 2010 ou fin des années 2000, c'est vraiment un peu condamner la viabilité financière du film. Et nous avons une affaire très connue qui s'est donc produite en l'an 2000 avec la sortie du film iconique Baise-moi, qui a été réalisé, alors adapté d'un ouvrage de Virginie Despentes qu'on embrasse puisque nous sommes actuellement en train d'enregistrer pour la première fois dans le studio Virginie Despentes de Binge Audio. On l'aime beaucoup si jamais elle nous écoute. Donc son film Baise-moi, qu'elle a co-réalisé avec Coralie Trinity, qui est adaptée de l'ouvrage du même nom, au début avait reçu une interdiction moins de 16. Cette interdiction moins de 16 a été, par le biais d'une procédure devant le juge administratif, a été annulée et il a reçu une classification X, puisque à ce moment-là, en 2000, le texte de loi qui s'appliquait datait de 1990 et il ne prévoyait pas de classification moins de 18, interdiction aux moins de 18 ans, non assortie de ce petit X ou de ce grand X, c'est vous qui voyez.
Que moins de 18, c'était automatiquement X.
Moins de 18, c'était forcément classé X jusqu'en 2000. Et donc, à l'occasion de la sortie de Baise-moi, où certes, alors c'est très violent, c'est très explicite, c'est un grand film qu'on vous conseille, enfin, que je vous conseille, je vais prendre ça sur moi.
C'est pas pour Barnabé, quoi.
C'est pas pour Barnabé du
pour
tout.
Pour petit Barnabé.
Non, non, c'est vraiment hyper pas pour Barnabé. Donc, l'idée, voilà, encore une fois, le visa, il est là pour vous protéger. Mais à cette époque-là, en l'an 2000, il n'y avait pas d'intermédiaire entre le moins de 16, qui semblait pas tout à fait approprié, je sais pas ce que j'en pense, mais bon, et le classé X. Et donc c'est à l'occasion du film Baise-moi que la loi a été changée et qu'on a réintroduit un visa moins de 18, interdiction moins de 18 ans, non classé X, et qui s'applique aux œuvres, attention, plus belle formule du monde, objectivement pornographique mais subjectivement artistique. J'adore, je vais me faire tatouer ça quelque part. Non.
Quelque part, ouais.
Non.
Ça, c'est moins de 18.
C'est une émission classée moins de 16 ans.
Maman, je te jure, c'est pas vrai. Mais c'est une très très jolie phrase, comme quoi les juges peuvent, ou les juges ou les législateurs peuvent parfois faire preuve d'un lyrisme insoupçonné. Et dans les autres exemples de la France, parce qu'effectivement, la France a un petit. Une petite prédisposition, une petite passion pour les films qui gratouillent un peu. Des réalisateurs comme Gaspard Noé ou comme Pascal Laugier sont régulièrement mis à mal devant la commission de classification et doivent un peu se battre pour réussir à avoir des visas pas trop restrictifs sur leurs films. Et l'idée, c'est donc que le fait qu'on ait rétabli le moins de 18 permet à toute une partie de la production de cinéma qui est effectivement passablement explicite, de pouvoir quand même être diffusé dans des vraies salles et de ne pas écoper directement de cette classification X. C'est assez heureux. Loïc, est-ce que pour finir, tu nous expliquerais pas un peu comment est-ce qu'on fait pour contester un visa quand il nous semble pas tout à fait approprié?
Absolument. Bon, on a déjà parlé de promouvoir. Nos joyeux amis qui ont fait leur cheval de bataille d'obtenir l'annulation de visa lorsqu'ils jugent un film trop pas convenant. Mais on peut se poser la question sur quelle base juridique ils opèrent et selon quelle procédure. Donc, on l'a dit, les visas sont délivrés par le ministère de la Culture et de la Communication sur avis de la commission de classification. Donc c'est un acte administratif unilatéral, il n'implique pas d'autres parties, c'est pas un contrat, et c'est donc de la compétence du juge administratif. Pour rappeler, en France, on a deux ordres
de juridiction, ouais, juridictionnels.
On a l'ordre civil pour tout ce qui est problématique d'ordre de droit privé, qui implique les individus entre eux, et les professionnels, donc les personnes privées, et on a l'ordre administratif pour tout ce qui est du contentieux avec l'administration et les personnes publiques.
Entre l'administration ou entre les gens et l'administration?
Oui, bien sûr, avec les individus et l'administration.
Le petit reste
également.
De droit administratif.
Voilà, donc là on est sur la compétence du juge administratif. Donc une association comme Promouvoir, pour qu'elle puisse agir, il faut qu'elle ait un intérêt à agir. Et une association, pour qu'elle ait intérêt à agir, il faut qu'elle agisse conformément à son objet social et donc la défense d'un intérêt général. Donc
oui,
si vous regardez les statuts de Promouvoir, vous allez voir marqué dedans protection de la jeunesse vis-à-vis des œuvres cinématographiques.
C'est ça,
etc.
Techniquement, Promouvoir n'aurait pas sa place, par exemple, dans un procès pour, je vais dire absolument n'importe quoi, pour des maltraitances aux animaux.
Voilà, a priori c'est pas dans leur objet social.
Peut-être dans des films. Mais effectivement, pour qu'une association, vous entendez souvent dans la presse, qu'une association participe à un procès, il faut que ça corresponde à ce qu'elle se propose de faire dans la société.
Voilà, Promouvoir, c'est pas 30 millions d'amis, donc chacun défend les intérêts qu'il choisit de défendre. Donc l'action en question, c'est tout simplement un recours pour excès de pouvoir. C'est le juge administratif qui va être saisi pour vérifier de la légalité de la décision. Donc généralement, il va vérifier la légalité externe, donc tout ce qui est vice de forme, problème de compétence, délai, la légalité aussi interne de l'acte. Donc là, est-ce qu'il y a une violation de la loi? Est-ce qu'on a un détournement de pouvoir? Est-ce que la motivation de la décision est justifiée? Et en fait, c'est exactement la même procédure que lorsque un particulier, un individu vient contester la décision d'un maire qui demanderait par exemple une fermeture temporaire, à la différence près que donc jusqu'en 2017, on avait effectivement la procédure habituelle où on passait d'abord par le tribunal administratif, ensuite on avait la possibilité d'aller en appel devant la cour administrative d'appel et enfin de contester une dernière fois la décision devant le Conseil d'État. Mais on a cherché à simplifier, à écourter cette procédure pour protéger davantage l'exploitation des films. Et donc depuis ce décret du 8 février 2017 dont tu parlais, on a l'article R311.2 du Code de justice administrative qui dit que c'est maintenant la Cour administrative d'appel qui est compétente en première et dernière instance pour juger des recours relatifs aux visas d'exploitation.
Donc c'est à eux qu'on s'adresse directement et c'est eux qui rendent la dernière décision.
Exactement. Après, la décision, elle est, on peut la contester devant le Conseil d'État.
Toujours.
Mais en tout cas, on ne passe plus par le tribunal administratif et on a plus ce double degré de juridiction.
Oh là là,
comme on dit.
Un double degré. Non, ok, prochaine fois. Double degré de juridiction.
On fera une émission sur l'organisation de la justice.
Non.
C'est pas super intéressant, non.
Tu sais quoi, ça peut être un super défi de se dire, on fait un épisode hyper cool sur l'organisation de la justice.
Ce ouais. sera tout public.
Tout public. Il sera rated tout public, absolument. Donc voilà, avant, on avait ce double degré de juridiction. Effectivement, des contentieux qui prenaient beaucoup de temps, même quand ils étaient suivis une procédure d'urgence comme le référé, ça prenait beaucoup de temps. Maintenant, on essaye d'aller un peu plus vite, d'être plus pragmatique. Et donc, un des exemples récents, c'est effectivement la procédure de 50 nuances plus claires qui a appliqué...
5 semaines, ouais.
Voilà, qui a appliqué
au lieu de 5 ans.
Voilà, qui ouais, a appliqué ce texte et cette procédure.
Qui a appliqué ce texte. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour pour cette première fois pour aborder ce sujet qui me passionne, qui est peut-être mon sujet préféré dans tout le droit.
Mmh. Moi, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup.
Moi aussi. Et on rappelle que c'est pas du tout le même principe. Enfin, c'est quasiment pas le même principe en télévision et c'est pas du tout le même principe en jeu vidéo. Il y a des classements différents et surtout des mécanismes différents.
Ouais, et comme ça nous a été suggéré par notre brillant réalisateur Quentin, on fera peut-être un épisode sur la classification dans les jeux vidéo, le fameux PEGI.
J'adore. Je travaillais
après
dessus.
Après Barnabé, PEGI.
Tout va bien. PEGI.
C'était un jeu de
Barnabé. C'est le titre de la saison 2 de Besoin de rien, envie de droit. En attendant, pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis pour cet épisode. On se retrouve dans 15 jours.
Binge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.